voici Entre deux eaux, en train de perdre ou de prendre pied dans l'eau d'ici et l'au-delà, qui ne sont jamais que deux aspects de l'eau de vie. Retournons donc un instant à l'intérieur du ventre de la mer. Après quelques mots du très paternel Bachelar, le bruit de succion dans un récif rocheux de Henri Morel nous ouvrira les portes des demeures aquatiques de Béatrice Ferreira, épigone de Pierre Schaeffer.
Et juste après, John Deneuve avec Intra-utéro-mammal frequencies, des ondes intra-utérines de mammifères mêlées à des champs de pygmées pour permettre à la femme de décontracter ses muscles pelviens lors de l'accouchement.
Une fois confortablement installée en position fœtale, c'est un texte de Michel Onfray qui nous bercera pour mieux aiguiser notre appétit, avant de découvrir la recette de l'estofinade, une carte postale gastronomique produite par Ouidir. Ce flot de paroles se prolongera avec quelques éléments de réponse à une enquête sur le langage, par Dubillard, que le poète écossais Ivor Cutler aurait certainement apprécié s'il n'était pas déjà mort.
La poésie de l'eau. Que la poésie, dès qu'elle voulait être un témoignage de notre passion pour la vie universelle, retrouvait d'instinct les longues pensées des philosophes, les longues rêveries des alchimistes, et qu'on pouvait dès lors prendre les quatre éléments matériels, eau, air, feu, et terre, comme s'ils étaient à la fois les éléments de l'univers et les éléments de l'imagination poétique. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre causerie à la poésie de l'eau. La poésie de l'eau. Il semble qu'on n'ait même pas besoin de la définir. Quel est l'homme poétique qui ne répondrait pas à l'appel des sources et des fontaines, qui ne garderait pas les souvenirs émus de l'étang et de la rivière. Nous allons voir que l'attachement que nous avons à la beauté de l'eau est fort de mille liens. Nous allons voir s'accumuler les attraits les plus divers, les attraits les plus contraires, de sorte que notre amour pour l'eau est peut-être le plus ambivalent des amours. Ainsi, l'eau sera aimée dans ses reflets et dans sa profondeur, dans son repos et dans son tumulte, dans sa substance et dans sa force. Les dialectiques se multiplient au point qu'il faudrait une véritable encyclopédie de l'eau pour les analyser toutes.
Le dauphin. Animal joueur, d'une rapidité incomparable dans l'eau, et dont toutes les possibilités restent mystérieuses. Comment ne pas être étonné par les gazouillis d'oiseaux très variés et très modulés que pousse cet animal sympathique?
Oh!
commencement bruit le liquide amniotique. Alors mon petit corps nage en eau tiède et bouge avec la lenteur d'une âme animée par de très légers souffles. La chair tourne dans l'élément aquatique à la manière lente d'une planète évoluant dans un lointain cosmos, presque immobile, ou à la façon d'une méduse flaccide dans l'obscurité des fonds sous-marins, quasi erratique. Le seul trouble provient d'un flux qui trace dans mes organes le passage d'énergie vitale. Le confinement de cet univers salé, poisson des origines ou vertu marine incarnée, j'obéis intégralement aux affects, pulsions, émotions et autres instincts de ma mère. Son sang, son souffle, son rythme oblige mon sang, mon rythme, mon souffle. Évidence de la palisse, tous les corps, masculins et féminins, procèdent de cette immersion primitive dans un ventre de femme. Hypothèse, tous les corps, masculins et féminins, aspirent, selon le principe de modalité confuse, aux retrouvailles avec ces voluptés primitives, quand la vie excelle et que triomphe sans partage la force des puissances vitales. Pression de l'intérieur de la chair maternelle contre mon dos, mes reins, ma nuque, mes fesses d'enfant portées et suspendues dans l'eau. Mémoire de limbe dans ma fibre informée par la lymphe, les nerfs, les muscles. Lumière en camaïeu de rouge, rose, orange, semblable au feu des explosions planétaires ou au brasier des explosions stellaires. Parfum volatile et fragrance infinitésimale, mais inscrit dans la matière placentaire, comme ces senteurs marines qui abîment heureusement l'air et l'éther des géographies côtières. Bruit sourd, grave, répété, doux, ronronnement épais, constitué de très basses fréquences. Son du dehors et roulement du dedans. Clapotis de la physiologie maternelle et rumeurs du monde. Je cligne la paupière, vacille avec une extrême lenteur, modifie ma posture et connaît ma première érection. Début d'une longue histoire, placée sous le signe de l'éternel retour.
Il semble que le fœtus se manifeste quand il est prêt.
Michel Onfray, théorie du corps amoureux.
There was a fish in the percolator. Sorry.
Donc, je suis Monique Savignac, j'habite à Peyrus-le-Roc et je tiens le restaurant Savignac qui existe depuis 4 générations. C'est la maison natale de mon mari.
Et je suis le conjoint de Madame Savignac, donc je m'occupe de la partie service et elle s'occupe de la cuisine. Et en plus, je suis agriculteur et maire du village.
Je prépare un plat qui s'appelle l'estofinade et je le fais à l'ancienne. J'ai appris avec ma belle-mère. C'est un plat qui est très local. Les amateurs d'estofinade se déplacent d'assez loin pour le manger parce que c'est un plat qui est de plus en plus rare. Ce poisson, il s'en trouve de moins en moins dans les mers du Nord. On a du mal à s'approvisionner. Alors là, je suis en train de faire cuire les pommes de terre. Le stockfish, il attend aussi d'être réchauffé, puisqu'il n'est pas salé. Il est donc trempé une semaine dans l'eau courante. Et donc après, on le fait cuire une petite demi-heure. Et après, on enlève la peau, les arêtes et on les miette pour ensuite le mélanger à la purée de pommes de terre. Donc avec des œufs durs, avec des œufs crus, du sel, du poivre, du persil et de l'ail, de l'huile bouillante. Et donc un plat régional qui se mange surtout l'hiver. Allô? Oui, bonjour. Je fais de mon mieux. Et je vais l'arrêter maintenant. Oui, à la limite, ça peut se faire. Mais vous serez sûrement la dernière, hein. Faut que je m'arrête une fois. Voilà, et puis c'est vrai que quand il fait chaud et orageux, c'est pas le moment de faire ce plat-là. Ah non, non, non. D'accord, vous seriez combien? D'accord, merci beaucoup. Oui, au revoir. Voilà, des gens qui veulent encore manger de l'estofina.
Donc vous allez prolonger un petit peu.
Un petit peu, mais je vais arrêter, ça c'est sûr, n'ayez pas peur. Non, non. Mais j'ai des collègues qui le font toute l'année. Allemagne-les-Unis s'est autoproclamée capitale de l'estofinade. Et eux, ils sont dans cette branche, je pense, toute l'année.
Je m'appelle Jean-Pierre Carrier. Je suis né le 18 juin 1952 à Decazeville. Et je suis restaurateur à Allemagne-les-Unis, capitale de l'estofinade, et à Grand-Bavre également. On a repris le menu traditionnel que les trois restaurateurs faisaient à Allemagne-les-Unis. Donc le menu, c'est potage, poule farcie, estofinade, caneton rôti aux olives, salade, fromage, crème maison foisse.
Alors, donc je me présente, je suis Annie Carrier, épouse de Jean-Pierre Carrier. Je m'occupe des groupes, après la clientèle touristique, juillet et août.
Et donc là, vous avez un groupe de 50 personnes ?
54 personnes.
D'accord.
Un groupe de troisième âge.
Vous arrivez à midi ?
Ouais, pour midi, oui. J'arrive.
Oui. Salut, Vedette. Hein.
Et voilà.
Donc, je prends un quart.
Un quart.
Allez, Alice. Bonjour madame, c'est moi qui vous ai présenté.
Oui.
Voilà, c'est
avant. Vous avez le nombre?
Oui, on doit être 54, hein, avec le chauffeur. Eh? 54 avec le chauffeur, comme j'avais dit.
Oui. Non, c'est bon, c'est bon.
Voilà, Alice.
Oui.
C'est
bon, c'est
bon. Alors, vous pouvez me dire, vous êtes le responsable de la structure
Oui, du club de Saint-Amand-Déco.
C'est-à-dire, c'est un club de quoi?
De retraités. On fait partie des aînés ruraux de l'Aveyron.
Ça, c'est le président.
C'est le président, lui.
Et donc, on est chargé d'animer tous ces retraités. Donc, évidemment, il y a des repas, mais il y a aussi quand même des sorties à but intellectuel. Aujourd'hui, on a fait Conques. L'an dernier, au mois de juin, on est allé voir l'A380 à Toulouse.
Et la gastronomie, ça fait partie quand même vraiment de...
Ah oui, ça fait partie, c'est un moment agréable ça. Hein. Mais on ne sort pas que pour de la gastronomie, on nourrit l'esprit et l'estomac. Quoi, hein.
Quand on fait comme il y a
par rapport au Stockfish ? Ça fait plusieurs fois qu'on fait ou c'est la première fois ?
Ah, tous les ans, on fait une sortie Stockfish. C'est agréable. Hein.
Bon, je vais vous laisser manger.
Et bon appétit à vous aussi. Hein.
Bon appétit.
Allez, bon appétit.
Les sons de l'estofilade, vous les verrez après, parce que c'est vrai que je vais casser des œufs et je vais mettre ces œufs crus dans l'huile bouillante. Donc c'est à ce moment-là que je remue et que donc l'estofilade est prête.
Et comme assaisonnement, vous mettez quoi ?
Et je mets du persil et de l'ail et du sel et du poivre. Et je mesure pas, je fais à piston des nasses. Et là, c'est le chou pour mettre dans la soupe. Et le menu estofinade chez moi, c'est de la soupe de campagne, une salade au magret fourré au foie gras, l'estofinade à l'ancienne, l'onglet de veau d'Aveyron, un plateau de fromage, des choux à la crème avec du vin, du café et un kira en apéritif.
Je crois que ce qu'il y a de plus probable, c'est lié à la navigation fluviale sur le Lot. Les bateliers partaient d'Entraigues, au cœur du Massif central, et ils allaient amener les denrées à Bordeaux. Pour agrémenter leur nourriture, ils faisaient des fagots de stockfish, c'est-à-dire des poissons séchés, pas confondre avec des poissons salés. Ensuite, le grand boom de la navigation fluviale sur le Lot, de 1830 à 1860, là où il y a eu l'implantation de la sidérurgie dans le bassin industriel de Decazeville. Et à partir de ce moment-là, il a fallu évacuer vers l'extérieur et vers les ports les produits de la sidérurgie. Alors, pourquoi d'abord les gens du bassin industriel de Decazeville et de la région de Figeac ont polarisé ainsi la consommation du stockfish et de l'estofinade? Qui pourrait le dire? Ça fait partie aussi de la légende, parce qu'ils ne s'en mangent pas à Villeneuve, ou très peu à Cahors, très peu. Donc c'est bien dans les régions pauvres qu'ils se consommaient. Et là, on a commencé à le mélanger avec du pain et du lait. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement de la pomme de terre. Alors on a mélangé ça avec de la pomme de terre, et puis, vous savez, ça c'est un produit populaire qui s'est inventé tout seul.
Première étape, je vais sortir les pommes de terre de l'eau, et je vais les écraser. Alors ce que les gens apprécient aussi, je pense, c'est qu'ils retrouvent aussi les morceaux de pommes de terre. Quand la pomme de terre est trop mixée, les gens ils ont toujours l'impression de manger de la pomme de terre flocon. Alors que là, bon, vous êtes témoin, on écrase. Donc quand j'aurai fini là, d'écraser les pommes de terre, je vais mettre les stoffies. Je vais rajouter les œufs cuits coupés en petits morceaux, le persil, l'ail, bien salé, bien poivré. Et dès que j'aurai tout ça, je ferai un puits au milieu et je verserai l'huile bouillante et les œufs crus. Je mélange et ça part. J'ai tout dit. Tu vas me casser des œufs. Tu m'en casses 18. Là, voilà, je mets le poisson avec les pommes de terre. Donc le poisson, il est cuit, donc il est vite. On peut le mettre à miettes facilement. Et vous voyez, il y a une arête, ça veut dire que c'est du vrai. Hein. Donc, le persil, je mets l'ail. Donc, je coupe des morceaux d'œufs. Alors ici, dans la région, c'est vrai que les clubs de troisième âge, ils sortent au moins une fois, voire deux fois par saison pour aller manger les stauffinades. Et ça, c'est systématique. Hein.
Voilà, parfait.
Hein?
Je pense que oui. Voilà, on vous a regroupé ça.
Vous avez rentré maintenant?
Oui, on va se faire la tête de bouche avec une sauce que nous on fait.
C'est servi à l'assiette, ça, ou sur des plats?
Sur des plats, on sert que au plat, comme ça, si ça, ils mangent suivant leur appétit, à volonté, pas de restriction.
C'est la tête de veau, René?
Oui.
Oh là là! En principe, c'est très 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 bon. C'est bon, bon ce pain. Mais oui, mais j'y reviendrai.
Ça sera tout froid.
C'est vrai que la tête de veau, il faut que ce soit chaud.
Mmh. Oui.
Ben, c'est très bon.
On va en parler au pain.
Ben oui.
Il y en aura peut-être de plus bavard que nous, ouais.
Prenez.
Ah non, j'en veux plus. Moi, je vais manger les stoffies. Mais alors, la sauce, qu'est-ce qu'elle est bonne?
Et le foin?
Et le foin?
Ça sera demain.
Oui, et le foin, ça sera demain.
C'est un bon de langue, là.
Il n'y en a plus pour Paulette, la langue?
Non, non, j'en veux plus.
Un peu de langue.
Paulette.
Non,
sans sauce. Sans sauce.
Il n'y en a pas beaucoup.
Non, puis il n'y a pas de sauce.
Merci.
Mais
c'est la sauce qui est bonne.
Et c'est la sauce qui est bonne, oui. Il y en a, c'est dans l'assiette. Et René, elle n'en veut pas?
Non, j'en ai plus. Moi, je suis venue pour manger des stoffies.
Mais moi, je suis venue pour manger de tout.
Je suis venue pour manger des stoffies.
Comment on est passé du stockfish à des stoffies? Bon, la première chose, c'est que le groupe ST, ça se prononce, vous savez, comme on disait des fois, un estilo. Les anciens, ils disaient un estilo, ils ne disaient pas un stylo. Donc, c'est toujours le groupe ST, ça fait est. Donc, déjà, vous avez de stock qui fait esto. Et le problème, c'est que quand le haut est ouvert, quand il s'ouvre beaucoup, c'est presque A. Donc, ce esto, ça devient esto ou esta. Alors, il peut être fermé, esto, esto, esta. Le groupe SH à la fin a disparu, c'est devenu estofi. Un estofinado, c'est venu naturellement. L'estofinado, ça veut dire soit le repas que l'on fait à l'occasion de l'estofi, mais ça peut être aussi la préparation même de l'estofi. Donc ce qui fait qu'il y a qui vont dire l'estofi ou l'estafi, ou un estafinado ou un estofinado. Voilà.
Alors on regarde si l'huile est bien chaude. Est-ce que ça peut lever les assiettes? Alors attention par contre, reculez. Alors en plus du bruit, il y a quand même les éclats d'huile qui volent. Là, il s'agit de bien mélanger. Voilà, et vous voyez que c'est du travail quand même de faire ce genre de plat. Oui, comme tu veux. Alors je le mets dans des plats maintenant. Et ça va pas être la table.
Voilà. aligot, je crois qu'il faut la manger sans pain. Hein.
Oui, il faut manger.
Et je vois qu'elle y a mis des œufs durs.
Mmh.
Oui.
Ah oui. Comment vous voulez ça, cette opération ?
Délicieux. Délicieux, délicieux. Délicieux. À point, vraiment. Et là, il y a vraiment du poisson. Il y a beaucoup d'œufs et du poisson. Et en plus, c'est très doux.
Est-ce qu'il y en a qui veulent acheter du stofiche à vous ? Qui en veut ? À quoi tu commandes ? 500 grammes ou 1 kilo ? 1 kilo.
Salut les gars de la marine.
Allez, 10 petits à 5 kilos. 5 de grammes.
Bon. Je téléphone à M. Poujade qui nous attend à la 27. Vous n'auriez pas venir, je ne l'ai pas gardé.
Oh, à quelle heure vous avez rendez-vous
à partir de 3h.
Oui, il vous faut un quart d'heure pour monter la 27. Vous n'aurez pas beaucoup de retard. Hein.
D'accord.
Vous mettez l'ordre ?
Oui, je le remplirai.
Très bien. Repas somptueux.
Ça a été ?
On reviendra. Je viens de faire un impressionnant passage dans le coin.
Très, très bien.
Parfait.
Voilà.
Alors, merci, madame.
Et bonne heure, madame, midi, alors.
Allez, au revoir, merci.
Allez, au revoir, monsieur.
Merci.
Allez, au revoir.
Voilà, bon,
vous verriez.
Bonsoir.
Allez, si vous voulez vous regrouper là devant le gars,
il faut vous mettre bien face à l'appareil. Hein. Vous mettez bien face à moi.
Comme tout le
monde. Bon, alors là, ça doit être bon. Alors, l'essentiel, c'est que au moment où je fais la photo, c'est que vous voyez tous l'appareil photo. Si l'appareil vous voit, je vous verrai. Je fais 1, 2, 3 top et au top, je fais la photo.
D'accord.
Alors j'ai tout le monde, c'est parfait. C'est calme, c'est parfait. Alors 1, 2, 3 et top. Parfait. Et ben merci.
C'est très gentil. Merci beaucoup.
On aura mal d'être là.
Merci.
Bon, on va attaquer alors.
Once again, I shall go and get the fishmonger to prepare the fish.
I expect you'd like to know about
frogmen.
Yeah.
They live on fish and catch them by diving onto them from a great height. Deeper and deeper and deeper and deeper, gliding down through the dark green water. He could breathe underwater because he had amphibious nostrils. On the way down, he passed hundreds of trout of different sizes. Trout are freshwater fish and have underwater weapons.
Don't you go to the
trout are very valuable. And immensely powerful. Keep away from the trout.
Why should it be that the fish in the sea are all unable to sing?
Just listen to me, young fellow. What need is there for fish to sing when I can roar and bellow? Eating fish. Eating fish.
Les savants russes de leur côté ont entendu le premier mot prononcé par les bébés dauphins de la mer Noire.
Maman.
Le même cri que celui de l'enfant des hommes. Un tel point commun nous permet de penser qu'un jour nous pourrons parler familièrement avec le dauphin. Deux écoles se battent déjà à ce sujet. Faut-il que les dauphins apprennent la langue des hommes ou au contraire que les hommes apprennent le delphinien ?
À une enquête sur le langage. Le langage n'est pas un insecte, n'est rien de bien précis, on ne peut le montrer du doigt. Le langage n'existe que si l'homme se charge de lui. En parlant, en écrivant, en sifflant, n'importe quelle langue, sur ou sous n'importe quel air. Alors on reconnaît le langage à ses traces vocales ou écrites. Cet instrument, cet outil, peu maniable, souvent insaisissable, l'homme, à sa naissance, le reçoit, tout fait. Il en saisit d'emblée l'utilité, qui est de le faire communiquer avec ses semblables. Le langage rend l'individu communicatif. Il touche les êtres proches de l'individu. Là où il n'y avait que l'individu, il crée l'homme. Approximativement,
virgule,
comme la bicyclette, elle ici crée le cheval.
Point de suspension.
Tel est le langage. Toute différente est la langouste.
Ah bon ?
La langouste est peu communicative. Ce que son mutisme suffit peut-être à expliquer. Pas même capable de se nommer toute seule, son nom lui vient d'un insecte, la locusta des latins.
Qui est notre sauterelle, dit aussi locuste.
Par sa nature, donc, la langouste, plutôt qu'avec le langage, voisinerait avec l'angoisse,
que les Italiens appellent l'angustia. La vue d'une langouste nous incite pas à la parole.
La vue d'une langouste nous incite pas à la parole, plutôt à la suffocation.
La vue d'une langouste cuite, peut-être, favorise les propos de table. Pas celle d'une langouste crue, d'une langouste vivante. Celle-ci nous imposerait, si c'était possible, le silence. Nous prenons la gorge de l'intérieur, l'étreignant à distance, par une contagion d'angoisse, paralysant les mots, les gelant dès leur source, nous rendant muets et paralytiques, et cela par son seul aspect. Et...
Car elle ne fait rien qui puisse nous effrayer. Pas méchante,
la langouste. C'est sa présence et rien d'autre qui nous étrangle.
C'est un
resserrement de notre gorge que nous reconnaissons,
l'angoisse.
L'angoisse spécifique de la langouste. J'ai dit sa présence. Mais que serait cette présence sans cet air absent qu'elle prend, sans cet air aussi profondément solitaire, que lui vaut son absence de pince?
Alors ?
Donc, serrée à la gorge, nous sommes devant elle. Et comment en serait-il autrement ? La langouste n'aime à vivre que dans les gorges serrées, celle des roches sous-marines.
Ses anfractuosités
dont elle raffole, qu'elle explore avec lenteur et où elle se cache petitement, au risque même d'y rester coincée pour la vie. Elle demeure là, vivant pour ainsi dire entre l'écorce et l'arbre, comme la sauterelle, sa marraine, mais pas dans l'air. Où la sauterelle trouve son expression sonore, son langage, semblable au bruit des scies, bruit sec, d'un être dont on comprend tout aussitôt que c'est de soif qu'il meurt.
C'est dans l'eau.
La langouste, elle, c'est dans l'eau.
Qu'elle stationne.
Cette eau où respirer n'est pas
passionnément
pas permis. Où la seule voix,
voix propre
est celle de l'étouffement.
La langouste donc habite
dans les angles. La langue, elle, habite dans la cavité buccale du côté de l'angine, dangereusement, au bord du précipice toujours vertigineux de la gorge. Cavité sujette à des étranglements parfois, qui pour un peu la déglutirait, cette langue, si agile pourtant que c'est en vain qu'on voudrait lui reconnaître une forme permanente, cette langue qui, fût-elle anglaise, se dérobe à toute forme, qui serait sa vraie forme et son naturel.
Mobile, oui, la langue, et vouée à la formation.
Mais paradoxe, elle aura beau articuler, siffler, claquer, lécher, sucer, zozoter, triste langue, et s'étirer vers le dehors entre des lèvres étrangères. Non. Elle restera dans sa bouche, prisonnière à vie. La langue et la langouste, ont cette vocation commune de vivre à l'étroit, dans l'Augustus locus des latins. Traduisons, le lieu de l'angoisse. Certes non, la locusta n'est pas loquace.
La locusta ignore les locutions.
Elle n'est pas liante. Mais parfois, peut-être, tandis qu'entêté comme un pou, quelques goulots de rocher l'étrangle, oui, peut-être, dans sa carapace, confortable en son intimité intérieure, la langouste, parfois, éprouve-t-elle sa solitude comme une sorte de langueur légèrement sucrée au goût, gustus. Et c'est ce qui nous pousse à l'ingurgiter. Son intérieur, son contenu, si doux, si riche, si secret qu'il nous convainc, avec la complicité de notre langue servile, toute courbette, tortillement et sécrétion, que la langouste est langoureuse. La langouste est-elle, sous le couvert de sa douceur, une empoisonneuse, dont le désir profond serait de nous endormir à jamais ? Locusta, angustia, locusta. Empoisonneuse célèbre.
Elle vécut à Rome sous le siècle d'Auguste. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Nota bene. Langouste, ou locuste, vient de la racine indo-européenne loc,
qui signifie sauter. C'est pourquoi locuste veut dire sauterelle, petite sauteuse.
La langouste, elle, ne semble plus guère sauter que par étymologie. Ou peut-être aussi par ce coup de queue, dont nous la savons capable, qui ressemble à une ruade à l'envers ou au célèbre coup de pied à la lune. Le coup de queue de la langouste est assez facilement observable hors de la mer, lorsque, vivante, on la plonge dans une marmite d'eau bouillante. Roland Dubillard, les nouveaux Diablogues.
A wasp crawled up a filing clerk's suit to sting him under the chin where it met the neck in a crease when your head's bent. Yah! I've been stung under the neck, he screamed, and made straight for the director's canteen, where they put real lemon in the tea, if you asked, or beside the fish, without asking. As he dabbed his sting with lemon, his eye caught the board of directors.
Come over here, Przewalski, called the chief. Where should we export our purple upswept spectacle frames with diamante inserts?
China, replied Przewalski, like lightning, remembering the saucer holding the anti-alkaline antidote.
There you are, gentlemen, said the chief, dismissing the trembling clerk with a benevolent smile, but a perfunctory nod. Poles are intuitive beyond belief.